France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que ce que l'on appelle depuis des années maintenant la question kurde est plus actuelle que jamais, une autre question revient, celle de la recherche en sciences sociales en Turquie et de ce qu'elle permet encore de comprendre. Comment enquêter sur un peuple historiquement divisé entre quatre pays quand les États qui le gouvernent font de ce sujet un terrain de guerre, un terrain de surveillance et de soupçons permanents. Pendant longtemps, cette recherche a été criminalisée. Des chercheurs et des chercheuses ont été poursuivis, en prison, parfois torturé, parce que chercher était déjà considéré comme prendre parti, notamment par la simple possibilité d'être accusé de lien avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan dissous en 2025. Alors face à cela, la recherche sur les Kurdes, mais plus largement la recherche en Turquie, est-elle encore possible? Comment la penser? Comment la mener? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Piner Selek. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes sociologue, maîtresse de conférences, vous avez publié Lever la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Université Paris Cité. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir. Et une première question, Piner Selek. On aborde souvent cette question kurde en Europe, en Occident, en France en particulier, à travers les médias, comme une question politique, comme une question avant tout militaire. Et pourtant, ce que l'on comprend en plongeant dans votre livre, c'est qu'il s'agit d'abord et aussi peut-être d'un rapport au savoir. Pourquoi ? Expliquez-nous en quoi cette question kurde a transformé peut-être la façon dont on pouvait mener des recherches en Turquie.
Alors, je peux dire plusieurs choses là-dessus. D'abord, dans des contextes autoritaires, quand il s'agit d'une domination militariste et nationaliste, on doit s'appuyer sur un discours, on doit se soumettre, disons, sur un discours mythologico, je ne sais pas, un peu mensongère aussi, donc très imaginaire. Et dans ce contexte-là, même réfléchir et poser des questions peut devenir, comme tu critiques, comme tu réfléchis sur le Dieu. Donc il faut pas réfléchir sur la nation. Donc quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, le mot kurde était interdit.
Le mot kurde était interdit.
Oui, oui, c'était pas comme maintenant. Et donc le mot kurde était interdit. Par exemple, quand il s'agissait des Arméniens, on acceptait qu'il y ait des Arméniens, le reste les pays. Mais les Arméniens, c'était des ennemis intérieurs. Donc c'était ennemis, mais ils existaient. Mais non, les Kurdes n'existaient pas. Même il y avait un président à l'époque, un premier ministre, pardon, qui a dit, mais ouvertement dans les médias comme ça, il a dit non, parce que c'est les Turcs de montagne. Comme il y a de neige là-bas, ils marchent, ils font de kart kurt et ça vient en kurde. Il a dit ça. C'est pas n'importe qui. Donc et donc c'était dans un contexte qu'on niait l'existence même d'un peuple. Et donc, c'était, en plus, cette population, à l'époque de l'Empire ottoman, vivait dans une semi-autonomie, donc il y avait une richesse culturelle très, très forte. Et donc, après la Première Guerre mondiale, avec aussi les alliés qui ont décidé de faire ces frontières comme on fait en Afrique. Donc les cousins sont restés en Syrie, les neveux sont restés en Irak, et tout d'un coup ce peuple s'est trouvé divisé. Et là, j'ai grandi dans ce contexte et j'ai décidé d'être sociologue. Mais c'était une choix très, très consciente parce que j'ai grandi dans une famille intellectuelle. Mon père a fait 5 ans de prison. Et il y avait la grande sociologue Beyce Boran, comme Durkheim de Turquie, visitée chez nous. Et parce qu'elle avait fait une recherche sur 2 villages, elle a utilisé le terme classe sociale, que le département de sociologie était fermé dans les années 50 et le état-major, il avait déclaré ce pays n'a pas besoin de sociologie. Et après, on a vu Ismail Beşikçi, le grand sociologue qui a travaillé sur les Kurdes. Et c'était avant moi, avant que j'ai décidé d'être sociologue. Et il a fait 17 ans de prison juste pour cela.
Alors justement...
Voilà, c'était le contexte.
Eh bien, le contexte est très bien posé. Je voudrais vous faire justement entendre la voix d'Ismail Beşikçi.
C'est vrai ?
Et je vous promets, c'est une...
Quelle surprise !
Exactement, dans une archive du 6 avril 2022.
Waouh, je suis contente.
Bien sûr, les prisons et les enquêtes, c'est le plus gros problème. Et surtout, très souvent, les descentes policières à la maison. Ils fouillent dans les livres, les manipulent, en emportent. Ce n'était pas seulement une pression sur nous, mais aussi sur nos voisins, à cause de moi. Même nos conversations, on pouvait les couper, on était mal à l'aise, parce qu'une descente pouvait avoir lieu à l'aube. Ma femme en était très affectée. Elle était très dérangée par tout ça. Et bien sûr, elle était aussi inquiète qu'ils viennent m'emmener. On a vécu ça, beaucoup. Depuis 1971, à différents moments, dans différents endroits. On a vécu tout ce processus.
Je fais le parallèle avec votre propre situation, Piner Selek, que vous racontez par ailleurs dans cet ouvrage qui vient de paraître, « Lever la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde ». Vous-même, vous avez fait de la prison, mais avant d'arriver en prison, c'est tout un processus qui s'est déroulé. Cela a commencé par des petites choses, par un rapport particulier aussi avec le pouvoir. Je voudrais que vous nous racontiez cette histoire. Quel a été le chemin qui vous a mené de la sociologie jusqu'à la prison ?
Quand j'ai grandi petite, j'ai grandi dans un contexte après le coup d'état militaire, donc 1 million de prisonniers dans quelques semaines. Même avoir le livre de Aragon ou Allende, c'était un délit. Donc j'ai grandi dans ce contexte-là. Et ma mère nous avait amenés à un spectacle de rhinocéros. De Ionesco.
La pièce
j'étais
Ionesco.
Petite. Et je voyais tout se changer autour de nous, notre famille. Et je me suis demandé, ça m'a marqué ce spectacle petite. Et je me suis dit, comment on devient rhinocéros? Donc j'ai trouvé une rhinocérorisation. Donc j'ai voulu vraiment comprendre comment fonctionne le pouvoir, comment on fonctionne sur le corps et comment on résiste. Et donc, c'est ça qui me... Comment c'est possible? Cette question, il était posée aussi par Hannah Arendt, par plein de gens, mais comment c'est possible? Et là, j'ai commencé à travailler sur beaucoup de choses, sur le pouvoir, territorialisation de pouvoir, mais ce n'est pas seulement l'État. Donc, par exemple, j'ai travaillé d'abord sur la prostitution, comment le pouvoir masculin se territoire, parce que la prostitution est légale en Turquie, se territorialise avec les coiffeurs, les bars autour des... Donc, j'ai travaillé vraiment pour comprendre le fonctionnement de territorialisation de pouvoir et de contre-territoire. Et donc, après, je suis devenue un peu spécialiste de l'action collective, des mouvements sociaux, mais aussi, je travaille à la fois, toujours, par exemple, comment mon avant-dernier livre, Le chaudron militaire turc, je raconte la production des auteurs de violences politiques.
Et cela, ça a inquiété le gouvernement? Cela a inquiété le pouvoir central?
Alors, au début, non, parce que peut-être... au début, toutes mes recherches, donc j'étais très jeune aussi à cette période, n'étaient pas si visibles que ça, jusque-là, mes recherches sur la question kurde, sur le mouvement kurde, je n'étais pas inquiétée. Mais quand j'ai commencé à cette recherche, donc en 1995, j'étais toute jeune, j'avais 24 ans, et je venais de finir une autre, j'étais en train de faire une recherche sur les trans, et c'était une recherche assez pointue aussi, mais j'ai pas eu de menaces à cause de cette recherche. Mais donc j'ai commencé à faire un travail vraiment ethnographique, donc je me suis entrée dans le terrain. Je n'ai pas fait une sociologie de l'organisation, donc je n'ai pas fait une sociologie du PKK, parce que j'ai dit que je suis turque, je ne connais pas bien le kurde, et je ne veux pas être dans les jugements, et je n'avais pas la possibilité d'aller plein de d'autres terrains, etc.
Vous avez fait un travail sur l'influence et la réception du PKK et de son idéologie.
Idéologie, je ne sais pas, mais sur comment c'est possible d'une organisation politique, dans très peu de temps, peut mobiliser une population jusque-là alors silencieux, et surtout une population rurale. Et donc, j'ai commencé à enquêter. Donc, j'ai dit que d'abord, je vais faire une immersion. Je vais vraiment suivre le quotidien. Et en suivant le quotidien, j'ai d'abord découvert quelque chose. Je viens d'une famille très progressiste, très active, très, je sais pas, droits humains, tout ça. Mais je ne savais pas à quel point cette réalité kurde dans mon pays, c'était la même chose par rapport aux Arméniennes aussi. J'ai découvert très tard. C'est universalisme qui rend un peu aveugle aussi la chose. Et
On va revenir sur vos recherches, mais je reviens à cette question initiale, oui, sur le chemin qui vous a mené à la prison, justement. Comment les autorités sont venues vous voir pour la première fois?
Non, mais donc j'ai fait cette recherche qui a duré 3 ans. Et quand j'ai fini cette recherche, j'étais en train de finaliser mes analyses. Donc j'ai réuni tout, et mais j'étais un peu j'étais pas kurde ni arménienne, donc j'étais fille d'avocate, un peu très assurante. J'avais beaucoup de confiance en moi, et après je fais une autocritique dans le livre. Et donc j'ai parlé que je vais m'enfermer, je vais écrire, je vais finaliser le livre. Et tout d'un coup, ils sont venus me prendre, et ils ont pris tous mes documents. Donc, ils ont vraiment confisqué. Ils m'ont dit, on va les garder. Tu peux partir. Tu nous dis juste les noms des personnes. Parce que, vous savez, dans les livres de méthodologie européens, ou occidentale en général, il y a des choses très importantes, mais il n'y a pas beaucoup d'outils par rapport quand tu travailles dans les contextes autoritaires, comment tu fais. Et nous avions développé ça en Turquie. Et donc, il y a un protocole très important. Par exemple, quand je fais une recherche, à l'époque, il y avait des cassettes. Vous savez, donc, j'enregistrais tout dans les cassettes. Et il y a ce protocole, il faut que tu les décris tout de suite. Comment dit, tu les retranscris tout de suite. Et je n'ai jamais dit, je veux faire demain. J'ai fait tout de suite et j'ai détruit les cassettes. Donc, la police n'a pas pu prendre aucune cassette qui appartient à mes interlocutrices, interlocuteurs. Mais aussi, je le réécrivais encore une fois, etc., etc. Donc, il y a tout un protocole et j'avais une discipline énorme de le faire. Donc, quand ils m'ont arrêté, c'était que les disquettes et mes carnets qu'ils ont pris. Et ils m'ont dit ouvertement que toi, tu nous dis les noms. Parce que j'avais dit X, Y, Z, A, B, C, etc.
Donc vos sources, aussi les personnes que vous aviez interrogées, reçues, que vous aviez suivies également.
Oui, oui. Donc il y avait, je ne sais pas, une 60, 80 personnes, les noms des personnes. Mais j'avais X, Y, Z. Et aussi, j'avais changé le nom des villages. Je me souviens quand je suis allée dans un village, par exemple, parce que ce travail du livre était très difficile pour moi. Parce que quand je me souviens que je suis allée dans un village et je rencontre des gens qui n'ont pas de carte d'identité, alors je suis une petite Istanbuliote turque, j'ai dit, mais on est 20e siècle. Après, je comprends que c'était une résistance pour les Kurdes de ne pas avoir carte d'identité. Mais quand je me souviens ça, donc je me souviens que j'écris sur mon carnet, tout d'un coup, je me vois attachée dans le mur, la cigarette dans mon oreille et des coups sur ma tête. Quel village ? Quel village? Donc, dès que je souviens quelque chose, je me souviens aussi de la torture. Donc, ils m'ont dit que dis-nous les noms et tu peux partir, tu ne vas pas publier ce livre. Et j'ai dit non, je ne veux pas vous donner les noms et je veux publier ce livre. Ils m'ont dit, tu sais ce que ça va t'arriver? J'ai dit oui, parce que je savais qu'il y avait la torture en Turquie. Et donc, j'ai dit, je suis prête et je vais défendre l'ontologie de mon métier. Déontologie de mon métier. Et après, j'ai eu la torture et j'ai résisté.
Combien de temps, Piner Selek, avez-vous passé de temps en prison?
Alors, je vais vous dire, pas beaucoup. Parce que pour les Français, beaucoup, 2 ans et demi.
Beaucoup, 2 ans et demi?
Oui, c'est beaucoup. Mais comme j'ai en prison, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont beaucoup. Hier, j'ai rencontré, parce qu'il y avait le lancement du livre, il y avait un Kurde qui était venu, quelqu'un lui a posé des questions. Combien de temps vous avez resté? Il a dit, pas beaucoup, 7 ans.
Moi, je trouve que 2 ans et demi, c'est quand même beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant de ces 2 ans et demi? Vous avez continué d'observer, de travailler, d'avoir ce regard de sociologue sur la prison qui vous entourait?
Oui, après j'ai écrit plusieurs articles sur espace public en prison, espace public féminin en prison, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce processus, j'ai découvert que l'année dernière, c'est à peu près, moi, je n'ai jamais parlé de ma recherche. Je parle toujours de ma recherche. Il était confisqué il y a 27 ans, tout ça. Mais je n'ai jamais parlé de ce que j'ai fait 3 ans et demi sur le terrain.
De vos résultats de recherche?
Oui, mes résultats, observations, je n'ai jamais parlé de rien. Et durant la torture, parce que je me suis rendu compte en écrivant ce livre, que durant la torture, en résistant, j'ai imprimé tout dans mes cellules. Et c'était incroyable, ça. Même en prison, je suis arrivée dans un espace, c'était une grande dortoir, donc j'étais avec les Kurdes, parce que en Turquie, c'est comme ça, quand tu es accusé de quelque chose, on te met avec des... C'était avant, c'était comme ça, maintenant c'est plus comme ça. Et il y avait plein de vieilles femmes, des jeunes, et je pouvais dire que je peux continuer ma recherche là-bas. Et donc, parce que c'était vraiment incroyable. Je pouvais dire que je pouvais discuter ma recherche avec ces gens-là. Je n'ai pas fait, j'ai pas parlé de ma recherche longtemps.
Qu'est-ce qui vous a permis de tenir, de résister, de ne rien dire et d'emmagasiner justement toutes ces recherches, toutes ces observations, tous ces entretiens aussi dans vos cellules?
Je ne sais pas. Et je crois que je ne veux pas beaucoup parler de ça, parce que je ne veux pas me mettre au centre de cette histoire non plus. Parce que en écrivant, en continuant à écrire le livre, et j'ai découvert le côté plus important de cette histoire, ma responsabilité, parce que j'ai bien protégé mes interlocuteurs, mais toutes les expériences qu'ils ont partagées avec moi, je n'ai pas pu, et je sentais que elles avaient peur. Mais parce que j'étais turque, tout ça, mais quand même, ils avaient un espoir. Et moi, j'ai tout pris. Et fille d'avocate, transparence, je parlais à tout. Et ça, j'ai pas réussi à les protéger vraiment. C'est pas moi qui est coupable de cette histoire, bien évidemment, mais j'ai une responsabilité quand même. Donc c'est cette responsabilité qui est importante pour moi, de vraiment rendre justice à cette histoire.
Est-ce que la situation a largement empiré depuis votre incarcération? Est-ce que la situation, le quotidien, le travail des chercheuses, des chercheurs en Turquie est devenu plus compliqué encore qu'il ne l'était?
Je ne sais pas, parce que je peux vous dire que quelquefois, on voit que les répressions d'aujourd'hui, quelquefois elle est visible, mais moi, comme je peux dire que quand vous faites une réflexion, quand vous vous regardez à partir de l'angle arménien ou kurde, etc., vous voyez que les répressions existaient depuis très très longtemps. Il y a des périodes où il y a des pics, et après, c'est un contexte assez complexe. Il y a une grande répression, mais cette répression, c'est pas comme en Iran. En même temps, il y a des livres qui se publient, mais il y a une autocensure, et tout d'un coup, tout le monde, il y a une purge, après, tout le monde se libère, donc c'est des tactiques plus élaborées. Mais ce que je peux dire juste deux choses.
Je vous en prie.
Oui. Et dans cette recherche, ma question, c'était comment cette population a résisté quand même, parce que le kurde était interdit, et je suis allée dans les villages où tout le monde ne parle pas turc. Ils ne savent pas parler turc dans ce pays. Et là, j'ai compris que, dans les coulisses, cette population, comme disait James Scott, distribuait le texte caché, et il y avait une résistance culturelle et sociale qui était très fort. Il y avait une vieille femme qui m'avait dit, il faut bien cacher les trésors. Donc j'ai conceptualisé le terme trésor, et j'ai compris que comment cette population a su vraiment, dans les coulisses, comme disait Goffman, dans les coulisses, pouvait créer un autre monde, une autre manière de vivre.
C'était quoi les trésors alors?
Les trésors, c'était la musique, l'histoire et dans cette musique, dans cette histoire, il y a des très beaux dours, donc j'ai découvert plein de dingbej très beaux dours qui se promenaient dans chaque village. On les nourrissait, c'était comme des sages.
Et ils étaient considérés par l'ensemble de la minorité kurde par des trésors.
En plus, ils dépassaient les frontières. Alors les frontières, c'est très intéressant. Il y a des frontières politiques. Et il y a beaucoup de tueries si tu passes de l'autre côté, beaucoup de violences politiques autour de ces. Mais la population trouvait des chemins qui traversaient les frontières. Et moi, quand je suis allée dans cet espace, et j'ai compris que la structuration des relations sociales créait une autre espace transfrontalière, et le thé passe, le café passe, je sais pas, le tabac passe, les histoires passent, il y a une circulation énorme. Et moi, on me racontait des histoires qui se passaient de côté Irak, qui se passaient, donc il y a eu des résistances aussi dans ces, donc j'ai compris que dans toute cette zone, il y avait une résistance culturelle assez importante.
Par-delà les frontières entre les quatre pays qui accueillent justement des populations, des minorités kurdes. L'Iran, la Syrie, l'Irak et la Turquie.
Ils n'accueillent pas.
Ils n'accueillent pas, en tout cas, où les Kurdes se trouvent aujourd'hui. Vous avez raison.
Ils sont là depuis très longtemps. Donc, c'est des autochtones aussi. Et j'ai découvert une autre chose dans cette recherche. Premièrement, les résistances socioculturelles. Et deuxièmement, quand le mouvement politique est sorti dans les années 80, il crée une possibilité que cette résistance monte sur la scène. Et monter sur la scène crée une expérience incroyable. C'est-à-dire, l'expérience de l'action collective change les personnes, les relations. Il y a une transformation et il y a un de mes interlocuteurs m'a dit, le génie est surtout de la bouteille. Il n'entrerait plus dedans. Et j'ai remarqué que...
Une forme d'émancipation
une forme d'émancipation et surtout une réparation. Même s'il y a beaucoup de violences politiques étatiques, mais de dire que nous sommes là et monter sur la scène tout ensemble, et ça crée une expérience comme 68, Deleuze parlait de cette expérience qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il se passe quelque chose en nous. Et moi, j'ai découvert cette transformation de cette population, et c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui aussi.
Justement, sur aujourd'hui, Pinard Selak, comment vous abordez, analysez les bouleversements profonds qui traversent la cause kurde avec, d'un côté, on le sait, l'an dernier, le PKK qui a été dissous. Ensuite, très récemment, il y a quelques semaines, une forme de désespérance aussi qui a traversé la communauté kurde au nord de la Syrie, puisque les espoirs d'autonomie semblent désormais bien affaiblis. Comment vous abordez ces bouleversements profonds et récents ?
Alors déjà, on est dans un monde, si on réfléchit sur ce qui se passe en Iran, partout, c'est vraiment très désolant en général. Donc dans ce contexte-là, je pense que les Kurdes vivent une des périodes plus dures de leur histoire. Très très difficile période, mais c'est très dépendant à tout ce qu'on voit autour. Mais si je n'avais pas fait ce travail, donc lever la tête, je crois que je serais un peu plus pessimiste.
Il vous a rendu pessimiste.
Non, si je n'avais pas.
Il vous a rendu optimiste ce travail.
Optimiste dans le sens, j'ai vu, j'ai compris les possibles, parce qu'à la fin du livre, quand j'ai raconté cette expérience, et j'ai fait quelques concepts. Je parle de théâtre forum, donc je raconte que monter sur la scène. Il y a des spectateurs, donc la population devient acteur et il se passe beaucoup de choses. Et un autre terme que j'ai créé, la danse à mille têtes, parce que les Kurdes dansent. Donc la danse était quelque chose, un trésor pour garder. Mais cette danse est devenue une action. Serildan. Donc Serildan, lever la tête en kurde, ça veut dire Serildan, lever la tête. Et ça veut dire que les insurrections, les soulèvements, etc. Et donc, il y avait ce soulèvement, mais de différentes formes. C'est pas un soulèvement juste sortir dans les rues, etc. Mais cette transformation. Donc, j'ai dit que dans cette, les Turcs avaient fait une opération, on va écraser la tête du serpent. Donc, le serpent, c'est très important pour les cultes. Ça vient de culture yézidi. Vous savez? Donc, j'ai dit, mais comment ils vont écraser quel serpent? Parce que maintenant, il s'agit d'une danse à 1000 têtes. Et donc, ils peuvent couper une tête. Et aujourd'hui, donc après tous ces grands pouvoirs politiques, grands pouvoirs militaires, on écrasait cette population et toutes les scènes qui étaient déplacées, qui sont devenues des scènes nomades, vagabondes, mais qui aussi ont multiplié leurs ressources, ont réussi à mobiliser beaucoup de personnes et se sont réunies, ils ont fait une redance d'action et je pense que cela va apporter beaucoup de possibilités pour les Kurdes.
Et donc il faut lire votre livre Pinar Selak pour découvrir ces trésors dont je rappelle le titre, Lever la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde. C'est aux éditions Université Paris-Cité. Merci d'être venu au micro de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Audrey Carme Rodier, Ken Berdi, Bertie Bourdon, et à la technique et à la réalisation, Léa Racine. Merci.